Bonjour à tous, enfin plutôt bonsoir parce que nous c'est le soir. Ça va bien ce soir? Ah, c'est bien de vous entendre tous, que Dieu vous bénisse. Ah, on a tous pris des couleurs. Ici il fait beau, la piscine est chaude, c'est très agréable. Alors, on n'a pas tellement de temps d'aller se baigner parce qu'on est dans les cartons, mais bon, c'est pas grave, on y va quand même un petit peu tous les jours. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'on va bien, que c'est par la grâce de Dieu ça marche, et voilà. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 8, pour commencer au verset 13. 8, 13. C'est Jésus qui parle à l'officier, vous savez, et vous connaissez l'histoire, et Jésus lui dit, vas-y et sois traité conformément à ta foi. Ça, c'est la version Archéos. J'aime bien cette version. Prions. Notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment et te demandons d'éclairer notre intelligence. L'intelligence, c'est un don qui vient de toi et nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence, et si ce n'est par toi, ça sera par le monde. Et nous ne voulons pas l'intelligence du monde, nous voulons ton intelligence. Aide-nous, Seigneur Jésus, à comprendre les choses que tu veux nous dire ce soir. Merci, mon Seigneur. Amen. Alors c'était rigolo parce que cet après-midi j'étais en train de préparer ce message et puis tout d'un coup j'entends bip sur mon iPhone et je regarde et c'était ma sœur Liliane Savigny-Auzère qui m'écrivait et me posait une question au sujet de la guérison divine. Et j'ai dit, écoute Liliane, c'est pas possible, je suis en train de préparer justement une prédication sur la guérison divine qui, j'en suis certain, va répondre à ta question. Et moi, ça m'a réconforté. Des fois, vous savez, on se trouve devant une page, on prend des notes, et puis on se dit, mais bon, on a prié, mais est-ce que vraiment, est-ce que c'est ce que Dieu veut dire ce soir? Alors, des petits signes du ciel comme ça fait toujours plaisir. Ça, c'est bon. Tous les prédicateurs qui m'écoutent là comprendront ce que je dis. Matthieu, chapitre 9, 22, c'est à peu près la même chose aussi. C'est 22 ou 23, 22, c'est Jésus qui parle et qui dit, prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et ta foi t'a sauvée. En fait, il y a plusieurs passages dans les Écritures qui nous parlent ainsi, qui nous montrent que souvent Jésus répondait à ceux qui venaient chercher la guérison vers lui. Il leur répondait de cette façon, ta foi t'a sauvée, qu'il en soit fait selon ta foi, et des choses comme ça. Alors on va méditer au sujet du rôle que joue la foi dans la guérison des maladies. Quand je dis on va méditer, le mot méditer signifie réfléchir. Hein? C'est pas prendre la position du lotus ou je ne sais quoi. Non, c'est réfléchir. Pourquoi Jésus demandait-il que ceux qui avaient besoin de son aide aient foi en lui? Parce que par ailleurs aussi, il dit, crois dans ce que tu dis et tu verras la chose s'accomplir, la foi. Donc, croire en lui, c'est une chose, croire en soi, c'est une chose. Ça n'est pas interdit de croire en nous, c'est pas interdit de croire dans les médecins, c'est pas interdit de croire dans l'aspirine, c'est pas. Mais d'avoir, là, il leur demandait, puisque les gens venaient vers lui, il demandait qu'ils aient la foi en lui. Parce que la foi, c'est une condition préalable. Parce que la foi ouvre les portes pour laisser entrer le vent, le souffle. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est un souffle, un vent puissant. La puissance, l'énergie qui vient du monde spirituel. La foi ouvre les portes pour laisser entrer cette énergie, cette puissance. Mais la foi guérit pas, c'est la puissance qui guérit. Vous comprenez? Quand ces puissances entrent en vous, ce sont comme des rayons de lumière. Quand on dit la lumière, c'est l'énergie, c'est pas un truc mystique. C'est la puissance de l'énergie. C'est un courant qui harmonise, qui purifie, qui régénère la matière qui est votre corps. Alors, on sait que Dieu le Père réside près de Colombes. On a appris ça il n'y a pas très longtemps. Je vous en ai parlé. Si vous ne savez pas, ben vous écoutez mes prédications précédentes et vous saurez ce que c'est. Et il est écrit dans Habacouc 3:4 que de sa main partent des rayons de lumière. C'est là que réside sa force. Pour que cette force puisse nous parvenir, il nous faut La foi. Voilà pourquoi il faut la foi. Parce que sans la foi, cette force ne peut pas nous parvenir. Jésus, il a quitté les régions célestes et quand il était sur terre, il était le parfait réceptacle de toute la puissance du Père. Et il l'a communiqué aux malades. Quoi? Cette puissance, cette force qui était en lui, et ça provoquait des guérisons. Les malades s'adressaient à lui, et en quelque sorte, ça déclenchait le processus. C'était déjà un acte de foi de venir vers lui. Souvenez-vous, par exemple, de la femme à la perte de sang. Elle a eu son miracle à l'insu de Jésus. Parce qu'elle croyait, alors elle a dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et Jésus a dit, mais qui m'a touché? Tout le monde te touche. Non, mais il y a quelqu'un qui m'a touché d'une façon différente, c'est-à-dire avec la foi. Et une force, j'ai senti une force qui sortait de moi. Et oui, cette force qui est en lui est sortie de lui et est rentrée dans la femme et a guéri cette femme. Est-ce que vous vous souvenez du passage? Je ne vais quand même pas vous faire l'injure de vous lire tous les passages. Soit vous n'êtes pas chrétien, vous ne connaissez pas les Écritures, et alors c'est bien dommage, il faut que vous mettiez à lire la Bible, soit vous êtes des chrétiens et vous connaissez. Quand le processus est déclenché, c'est-à-dire quand on s'approche de Jésus avec foi, la puissance de Dieu se manifeste. Avec foi, ça veut dire avec confiance. C'est rien de plus, c'est avec confiance. Vous voyez, pour que des miracles s'accomplissent, il faut ces trois conditions, il faut qu'elles soient remplies. Premièrement, s'approcher avec foi et puis recevoir. Parce que, voilà, à partir du moment où, par exemple, supposons, quand il lui a dit, il lui a mis de la boue, Jésus a mis de la boue sur les yeux du bonhomme, bon, ben, il lui a dit, va te laver à la fontaine de Siloé. Non, ça m'embête. Ben oui, l'autre là, je ne me rappelle plus, qui était guéri de sa lèpre, il disait, mais pourquoi est-ce que je vois les... Comment, Laban? Laman. Ben, il a respecté, il a dit, oui, j'ai aussi des fleuves dans mon pays, pourquoi est-ce que j'irais me tremper cette fois dans le Jourdain? Vous voyez, il y a des gens, alors ils ne veulent pas recevoir comme ils doivent recevoir. Il y a au moins ces trois conditions qui doivent être remplies. Alors, beaucoup de chrétiens ont mal compris ça. Ça n'est pas la foi qui provoque la guérison. Ça n'est pas la foi. La foi, elle aide à la guérison, mais la foi ne fait pas de miracle. C'est pas la foi qui fait le miracle. La guérison est provoquée par une autre force que celle de la foi. La foi, c'est une force déjà. Mais c'est pas ça qui vous guérit. C'est pas la foi qui vous guérit. Toute la gloire doit revenir à Jésus, pas à votre foi. Jamais. Ni à la foi du prédicateur. Jamais. Alors, méditons cela, ou en français non religieux, disons, réfléchissons à cela. C'est quoi un miracle? Alors là, voilà une question qui est bonne. Un miracle n'est pas un phénomène qui défie ou qui nie les lois de la nature. Ça, on entend ça partout. Mais c'est archi faux. Ça ne défie pas les lois de la nature, ça ne nie pas les lois de la nature. Les miracles arrivent à ceux qui connaissent ces lois et qui les provoquent, qui les manifestent. C'est dans la nature. Aucune manifestation n'échappe aux lois physiques, aux lois chimiques, rien. Aucun miracle n'échappe à ça. J'ai eu l'occasion, un jour, c'était en Afrique, dans une église, il devait y avoir à peu près un peu plus de 2000 personnes, et il y avait une femme qui était là, qui est une amie, et qui est hypnothérapeute, et elle m'a vu guérir des malades qui étaient là, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et quand on s'est retrouvés après à manger ensemble chez le missionnaire qui nous accueillait, elle m'a dit, mais qui est ton maître hypnotiseur? Qui t'a appris à faire ça? J'ai dit, mais je n'ai pas de maître hypnotiseur. C'est Jésus mon maître, c'est lui qui fait les miracles. C'est la puissance de Jésus qui fait ces miracles. Parce qu'elle me dit, mais Tu fais des miracles tellement extraordinaires. Moi, j'arrive à faire des petites choses, mais rendre la vue à un aveugle, rallonger une jambe comme ça, faire marcher un paralytique, ça, j'ai jamais vu. Mais bien sûr que non, aucun homme ne peut faire ça. Sinon, Dieu. Alors, elle a confessé pouvoir guérir certains maux avec l'hypnose, mais pas ce genre de maladie-là. La condition pour obtenir de tels résultats, plus fort que l'hypnose, plus fort que tout ce que vous voulez, c'est d'obéir aux lois de la nature. Bon, maintenant, le truc de l'hypnose, c'est aussi dans la nature. Mais je préfère Jésus, hein. Je préfère Jésus. Je ne sais pas vous comment vous êtes, mais moi je préfère Jésus. Car même les faits les plus extraordinaires sont naturels. Ils sont naturels. Rien n'est surnaturel. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, il est naturel. C'est sa nature. La nature de celui qui nous a créés, c'est de faire ces choses-là. Et nous sommes de sa nature. Vous voyez, mes frères et sœurs, ce n'est pas. Jésus n'est pas un monstre extraterrestre capable de faire des choses extraordinaires et de nous montrer sa puissance en crânant comme un espèce de je sais pas quoi, et puis ensuite retourner dans son ciel de gloire en nous laissant seuls, sans puissance et sans rien. Non, pas du tout. Il est venu pour nous montrer comment il faut faire, comment il faut être pour pouvoir faire. C'est ça. Ce que je vous ai toujours enseigné, c'est que partout, il y a des degrés différents. Ça va du plan matériel au plan spirituel le plus subtil. Il y a des degrés. Alors, qu'on ne vienne pas me dire que ça n'est pas biblique. Mes frères et sœurs, les lois du monde psychique, c'est-à-dire au sujet de l'âme, les lois du monde physique, notre corps, les lois du monde spirituel sont des lois de la nature. Parce que les choses de l'esprit, c'est dans la nature. Vous avez un esprit, c'est naturel, c'est pas surnaturel d'avoir un esprit. Vous êtes un esprit dans un corps. C'est pas surnaturel. Et Dieu n'est pas un être surnaturel. Il est naturel, Dieu. Faut arrêter avec cette espèce d'image qu'on a de lui. C'est pas un monstre qui est capable de faire des choses que nous, on ne peut pas faire. Pas du tout. Nous sommes créés à son image. C'est sa nature de pouvoir faire des choses comme ça. C'est la nature de ses enfants de pouvoir les faire. C'est la nature de Dieu. D'ailleurs, tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez, tout ce que vous sentez, tout ça, c'est de la nature de Dieu. C'est sorti de Dieu. Comment, tout est surnaturel. Alors à ce moment-là, puisque tout vient de Dieu. C'est vrai que des fois, on se dit c'est surnaturel, mais quand on voit un enfant qui naît, c'est extraordinaire. Et puis il y en a d'autres qui pensent que c'est normal. Bon, voilà. Vous voyez, ça dépend tout comment on regarde les choses. C'est juste, frères et sœurs, sur quel plan on agit. Il faut savoir sur quel plan on est en train d'agir. Et sur quel plan la loi qu'on utilise agit. C'est ça qui est important. Si Jésus guérissait tous les malades, c'est parce qu'il possédait en lui-même, dans son corps, en lui-même, corporellement, c'est écrit, toute la plénitude pour que se déclenchent les forces qui s'opposent à la maladie. Mais cette force, aujourd'hui, combien la possède? Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Sur vous, à un autre endroit il dit, et même en vous, et à un autre endroit il dit plus, il dit vous serez immergés dans le Saint-Esprit, dans cette puissance. Baptisés dans le Saint-Esprit, ça veut dire immergés, plongés dedans. Alors, normalement, naturellement, tous les chrétiens devraient pouvoir faire ces miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il dit de le faire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Ceux qui auront la foi. N'est-ce pas la vérité? Ne venez pas me dire que ça n'est pas biblique. Pourquoi? Parce que un disciple accompli, Jésus dit, il est comme son Il est comme son maître, un disciple accompli est comme son maître, c'est-à-dire un réceptacle de la puissance d'en haut pour pouvoir ce réceptacle-là, pour pouvoir diffuser la force afin que cette force sorte de nous pour entrer dans les malades. C'est cela. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est écrit dans 1 Jean 3, je ne sais plus combien, 3:17 je crois. 1 Jean 3 et quelques. Alors, où est-ce que ça cloche? Tous ces gens qui parlent en langue et qui prétendent être baptisés dans le Saint-Esprit et qui font rien, rien d'autre que d'aller poser leur derrière le dimanche matin dans une église et puis qui parlent en langue, qui parlent en langue, qui parlent en langue et qui croient avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Où est-ce que ça cloche? Pour pouvoir guérir comme Jésus le faisait, il faut non seulement avoir cette force, c'est-à-dire le Saint-Esprit en soi, mais aussi exercer. Exercer. Exerce le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains, n'est-ce pas écrit? Ne venez pas me raconter que je ne suis pas biblique, je connais ma Bible, dites donc. Et oh, depuis 1968 que je la lis tous les jours, vous n'allez pas commencer à venir chipoter sur des histoires là. Et c'est là qu'intervient la foi, c'est-à-dire l'acte. La foi sans l'acte, c'est mort. Il faut un acte, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, au moment où vous commencez à exercer, alors vous manifestez la foi. C'est-à-dire que vous commencez à faire ce que Jésus dit. Quand est-ce que vous avez mis vos mains sur un malade la dernière fois? C'est quand la dernière fois que vous avez chassé un démon? C'est quand la dernière fois? Vous voyez, les chrétiens n'osent pas le faire. Ils ont eu deux, trois échecs et alors ils n'osent plus. La foi de celui ou de celle qui veut guérir les malades au nom du Seigneur Jésus-Christ, il doit pouvoir manifester sa foi, c'est-à-dire provoquer, je vais vous expliquer comment, faire l'acte de foi pour que les gens viennent vers lui ou vers elle pour être guéris. C'est de ça dont je parle. Alors peu de personnes en sont capables parce que peu de personnes savent travailler leurs pensées. Ils ont des pensées qui vagabondent. Ils ne sont pas maîtres de leurs pensées. Là, c'est T.L. Osborne qui m'a appris beaucoup de choses. Nous étions dans son bureau pendant plus d'un mois et demi, mon épouse et moi, et on a appris beaucoup de choses. Et en lisant ses bouquins aussi, et je vous recommande de les lire, vraiment, il m'a appris beaucoup de choses. Quand vous voyez le frère Osborne monter sur l'estrade pour aller prêcher, il prêchait l'évangile du salut et de la guérison. Point. Il ne rentrait pas dans des doctrines spéciales et des choses. Il faisait l'évangélisation. Salut, guérison. Seulement les gens étaient vraiment sauvés et ils étaient vraiment guéris. Ça ne se roulait pas par terre en criant et en hennissant ou en je ne sais quoi. Non, non. Il priait pour les malades et les malades étaient guéris. Il ne prêchait jamais que Paul avait laissé Trophime malade à Millet. Il ne prêchait jamais que Timothée avait des problèmes intestinaux. Jamais. Il fixait sa pensée sur une chose. Jésus a porté tous nos péchés sur la croix et il a porté toutes nos maladies sur la croix. Et il prêchait ça parce que c'est ça la bonne nouvelle. C'est pas que Trophime était malade à Millet. C'est pas que Janton a eu un cancer. Ça n'édifie personne. Par contre, que Janton ait été guéri du cancer, oui, ça peut édifier. Vous voyez? Voilà, Osborne, c'était ça. Et on ne doit pas être moins. Si vous commencez à prêcher... Non, il ne faut pas avoir des idées vagabondes. Il faut savoir ce que vous voulez, et ce que vous voulez, c'est ce que vous allez avoir. Lui, il voulait que les gens soient sauvés et guéris, donc il prêchait le salut et la guérison. Réellement. Et c'est ça qu'il avait réellement. On récolte ce qu'on sème. Il montait sur l'estrade devant les foules, avec cette seule pensée en lui. Et ça le faisait rire. Jamais vous avez vu Osborne monter sur une estrade en se tordant les doigts, en se demandant « mon Dieu, pourvu qu'il y ait des miracles ce soir, sinon je vais avoir l'air d'une nouille et ma réputation va être salie ». Jamais. Il montait là comme un vainqueur. Il était vainqueur. Il partait en vainqueur pour vaincre. Et ça marchait. C'est ça que j'ai appris. Cela, c'est ce que doit faire celui ou celle qui veut guérir les gens au nom de Jésus. Après ça, intervient la foi du malade. Là, c'est encore un autre domaine. Écoutez bien ça. Il existe des maladies physiques et des maladies psychiques. Et comme il n'y a pas de séparation entre le corps physique et le corps spirituel, les deux s'influencent mutuellement. Très embêtant ça. Très embêtant. Alors, pour obtenir une guérison sur le plan physique, par des moyens spirituels, c'est toute une affaire de connaissance des lois qui régissent les deux mondes, qui en fait n'en sont qu'un, mais voilà, il faut connaître tout ça. Et c'est là que la plupart se prennent les pieds dans le tapis, c'est-à-dire qu'ils trébuchent, ils ne savent plus, c'est un gros mélange, soit ils arrêtent de prier pour les malades, soit ils deviennent fanatiques et ils laissent les gens mourir. J'ai connu un pasteur à Paris qui a conseillé à un homme qui devait se faire enlever une tumeur dans le cerveau. Il a dit non, tu dois avoir la foi, tu dois garder ta foi. Et cet homme, sa tumeur a grandi, ça a coincé le nerf optique, il est tombé aveugle. Ensuite, ça a dégénéré. L'autre lui disait, mais garde la foi, t'as pas la foi, que c'est que cette foi et tout. Et finalement, il en est mort. Voilà. Fanatique. Par la puissance, et puis moi quand je lui disais, mais non Paul-Henri, il faut que tu ailles te faire soigner, je lui dis le nom là maintenant. Enfin, je n'ai pas dit le nom du pasteur, il est mort aussi. Mais voilà, je passais pour un charnel quand je lui disais, mais non, va te faire soigner, vas-y. Mais Michel, tu n'as pas la foi. Je dis, si j'ai la foi, mais il faut être équilibré. Enfin, comment? Bon, c'était moi l'idiot. Ah mon Dieu, ils se prennent les pieds dans le tapis. Par la puissance des pensées exercées, contrôlées, on peut guérir des maladies psychiques. Même si c'est un peu long, on arrive à en triompher. C'est un peu long des fois de guérir un chagrin, de guérir de l'angoisse, de guérir de toutes sortes de troubles psychiques. Mais on peut le faire, voilà. Mais pour ce qui est de guérir une maladie physique, par la pensée, c'est-à-dire par l'esprit. Il faut employer les mots justes. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que les remèdes physiques sont très efficaces et il faut arrêter d'être un fanatique religieux. Vous avez mal à la tête, vous n'avez qu'à prendre une aspirine. Vous ne supportez pas l'aspirine, vous prenez un dafalgan. Vous avez mal aux dents, vous allez chez le dentiste. Vous avez un problème de peau d'échappement, vous allez chez le garagiste. Vous avez un problème de constipation, vous prenez le médicament qu'il faut. Non, mais c'est quoi ce cirque? Ah bah le fanatisme religieux. Le fanatisme religieux conduit finalement au meurtre. Alors bien sûr, avoir la foi, c'est aussi croire au pouvoir de l'esprit, à la pensée, sur la matière. Bien sûr, bien sûr. Il faut... Mais si je vous parle comme ça, c'est parce qu'il y a tellement de fanatiques. Ils disent, moi je veux faire comme Osborne, mais ils ne savent pas quelle loi Osborne employait. Ils ne savent pas quelle loi j'emploie. Ils ne savent pas quelle loi Raphaël employait. Raphaël, il les employait sans même pouvoir dire ce que c'était, parce que son vocabulaire était limité. Mais c'était ces lois-là qu'il employait pour avoir tant de miracles. Il faut aussi reconnaître que beaucoup de maladies physiques ont une cause psychique. Comme la haine, par exemple, ça provoque des maladies. Ça provoque des maladies physiques, la colère, le découragement, le stress. Moi, le stress m'a fait un cancer. Et gloire à Dieu, j'en suis guéri maintenant. Et je vous ai raconté ça dimanche passé. Alors, ne jouez pas avec votre santé, je vous en supplie. Les médicaments ne sont pas mauvais. Les médecins ne sont pas des suppôts du diable. Ce sont de bonnes personnes qui cherchent à vous faire du bien, à faire des miracles. Je vais vous raconter un témoignage à côté de moi, juste là, à gauche. J'ai mon gendre, Éric Jacques, qui a vécu un miracle. Quand il s'est converti, il est né myope. Myope, comme James Dean. Je fais exprès de le dire, parce que je sais, ça en énerve certains. Myope, comme une taupe, si vous voulez. Et quand il s'est converti, il disait, Seigneur, je voudrais que tu me guérisses. Et il a eu son miracle. Il est allé chez un chirurgien qui l'a opéré avec des lasers. Et c'était il y a combien de jours?
2 jours.
2 jours. Et maintenant, tu vois?
Super bien.
Voilà. Il l'a jamais vu si bien, même avec des lunettes, même avec ses lentilles. Vous voyez, Dieu donne l'intelligence aux hommes pour faire des réels miracles. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Faut pas nier ça. La maladie est une chose qui vient du diable. Si la maladie venait de Dieu et que les médecins essayent de vous guérir, ça voudrait dire que les médecins sont des suppôts du diable. Mais étant donné qu'ils veulent la même chose que Dieu, c'est-à-dire ils veulent votre bien, ils veulent votre guérison, eh bien ce sont des gens qui servent Dieu, même sans le savoir, parce qu'ils luttent contre le mal. Et que ton médecin soit béni d'avoir fait ce beau travail, c'est magnifique, c'est magnifique. Vous voyez, sous prétexte qu'ils sont croyants, certains se montrent très imprudents, ils manquent totalement de sagesse, ils s'attendent uniquement à des miracles de Dieu. Voilà, que Dieu. Et puis, bon, ben pourquoi pas faire comme les témoins de Jéhovah, arrêter les transfusions de sang et tout, c'est du fanatisme. Alors bon, par exemple, si vous souffrez de maux de tête, vous voyez un médecin et il va vous dire que ça vient, peut-être, ça vient de votre alimentation ou alors ça vient de votre stress. Eh bien, vous allez vous soigner en connaissance de cause. Vous voyez, je vous disais, il y a des degrés. Il faut savoir à quoi on s'attaque, sur quel plan on travaille. Si c'est à cause du stress, ben apprenez à maîtriser vos pensées. Pour que vous ayez plus ce stress. Si c'est à cause de votre alimentation, changez ce qui doit être changé dans vos habitudes alimentaires. C'est quand même pas. C'est tellement bête de devoir dire des choses comme ça. Mais vous savez, je reçois des lettres, mais des questions. Mais mon Dieu, je me dis, mais c'est pas possible que les gens soient encore là à croire des bêtises pareilles. Donc je suis obligé d'enseigner ces choses-là, parce que sinon les gens vont penser, voilà, Michel Janton, un ministère de guérison, de miracles extraordinaires, mais les gens comme ça sont très rares, c'est un don, et ceci, et cela. Mais Jésus a dit, tous ceux qui croient feront les mêmes choses, celui qui est un disciple accompli sera comme moi. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Rien ne vous empêche d'avoir foi en Jésus tout en ayant recours à la chirurgie ou à la médecine ou à quoi que ce soit. Rien ne vous empêche. La puissance spirituelle vous aidera dans toutes ces choses. Parce que la puissance spirituelle et la puissance de la matière, tout ça fait un. Votre âme, votre corps, votre esprit, tout ça, c'est tellement bien mélangé. La Bible elle-même dit qu'on ne sait pas par où prendre, par quel bout prendre pour pouvoir diviser l'âme du corps, de l'esprit. Donc tout ça marche ensemble. Donc arrêtez d'être seulement entre guillemets spirituel. Tout est spirituel. Alors arrêtez de jouer avec votre santé. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est possible sans la foi. Si vous ne croyez pas à la capacité de votre dentiste, n'y allez pas. Ou changez de dentiste. Ou alors crever de douleur, je sais pas moi. Mais si vous avez mal aux dents, allez chez un dentiste. Moi, je connaissais une sœur en Suisse, je ne vais pas dire son nom. Hilda, elle s'appelait. Elle était tout le temps après nous parce qu'elle ne voulait pas. Quand elle s'est convertie, le soir, elle est rentrée chez elle, elle a vidé toute la pharmacie, elle l'a jetée à la poubelle. Son mari, le lendemain matin, il voit ça, il dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est le Seigneur qui m'a dit, il ne faut pas prendre de médicaments. Maintenant, c'est Dieu le divin guérisseur. Ben, ça a été tellement loin que finalement ils ont divorcé les deux là. Hein. C'est du fanatisme. Donc elle se moquait de nous si on prenait des médicaments et puis elle nous engueulait. Hein. Et un jour, elle vient à Paris chez la sœur Camélia, qui était une gitane qui vivait dans une caravane. Et moi je me rappelle, on était dans la caravane et notre sœur, un peu fanatique sur les bords, elle avait une rage de dents. Mais une rage dedans. Elle tourne autour de la caravane, puis de Jésus, Jésus, Jésus. Et Camélia, elle dit, je prie pas pour toi, débrouille-toi. Prends, va donc chez le dentiste. Non, c'est Jésus. Finalement, elle a quand même dû aller chez le dentiste. Mais vous voyez, c'est du fanatisme. C'est idiot. Arrêtez de faire ça. Dieu a donné l'intelligence aux hommes pour faire des miracles maintenant. Mais ça ne veut pas dire que des miracles par la prière sont impossibles. Et je suis très bien placé pour vous dire que c'est possible. Mais rien n'est possible sans la foi. Si vous n'avez pas la foi dans votre toubib, eh bien, mes enfants, ça va être très difficile pour vous. Avec toutes les cochonneries qu'on mange. C'est vrai, hein? Rien n'est possible sans la foi. Mais croire, ça suffit pas. Croire, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de croire et d'attendre passivement que le miracle se produise. Non. Non. Puisque le miracle est un phénomène qui obéit aux lois de la nature que Dieu a faites et qui sont selon sa nature, parce que tout est selon la nature de Dieu, vous pourrez, par un travail intérieur, mais aussi par des exercices physiques, participer au processus de votre guérison. Il y a des gens en Afrique qui me disent, j'ai très mal au ventre, ça me brûle. Je dis, je crois que vous mangez beaucoup de piment. Le Seigneur vous l'a montré, je dis non, simplement je suis intelligent, vous mangez trop de piment. C'est vrai, frère, c'est vrai. Je dis, arrêtez de manger du piment, vous verrez, vous aurez plus mal au ventre. Je prie pas pour vous, arrêtez de manger du piment. Et quelques jours après, vous avez raison, frère, j'ai plus mal. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'un travail intérieur? La première chose à faire, c'est de déclencher la puissance de guérison. Elle vient du Très-Haut, la puissance de guérison. Donc, puisqu'elle vient du Très-Haut, cela veut dire qu'elle vient de Très-Haut. Ça veut dire que la première chose à faire, c'est de vous élever vous-même, d'élever vos pensées jusqu'à Dieu, de ne pas rester fixé sur vos symptômes, d'arrêter de parler tout le temps de ça, de votre maladie, d'en parler à tout le monde pour que tout le monde vous plaigne, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout en parler, mais vous avez des gens qui parlent que de ça et du beau temps, hein, ou du mal des autres. Mais élevez-vous au-dessus de tout cela jusqu'à Dieu en pensée. En pensée. Ça, c'est la contemplation, ce n'est pas la méditation, ça, c'est la contemplation. Vous vous rappelez, je vous avais fait toute une série là-dessus. C'est en haut qu'il faut toucher, c'est en haut qu'il faut regarder, c'est en haut qu'il faut écouter. Si tu crois que cela est possible, tu le verras s'accomplir. Si tu crois que Et si tu remercies Dieu à l'avance, avant que cela n'arrive, tu le verras s'accomplir. Il faut s'élever dans la pensée pour y arriver. Il suffit pas de le croire intellectuellement pour déclencher la puissance qui provoque votre guérison. Je vois souvent, non, je ne les vois plus parce que je ne vais plus les écouter, ils m'agacent. Mais autrefois, j'allais voir, des fois dans des réunions, je voyais des pasteurs qui priaient pour les malades et il ne se passait rien. Pourquoi? Parce que c'est des bricoleurs. Ils font mal leur travail. Leur travail, c'est d'attirer la pensée des gens jusqu'en haut, jusqu'à Jésus, d'élever leur pensée, de faire monter leur foi, de les élever jusqu'à Jésus en vue de leur guérison. Eh ben non. Ils vont vous prêcher sur un sujet, la mer calmée, la dîme, la sanctification, la repentance, tout ça c'est très bien. Et à la fin de la prédication, puisque c'est l'habitude, on prie pour les malades, mais on n'a pas dit un seul mot au sujet de comment recevoir la guérison divine. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils récoltent? Rien. Rien du tout. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et s'ils n'ont pas entendu parler de la guérison, vous allez me dire, oh, mais ils savent, ça fait tellement longtemps qu'ils viennent aux réunions. Non. On a besoin d'entendre et d'entendre et d'entendre et d'entendre encore et encore et encore et encore. Ensuite, alors il prie pour les malades et c'est un non-sens. Il faut enseigner, c'est-à-dire ensemencer le cœur des gens avec les paroles qui concernent la guérison pour pouvoir s'attendre à déclencher la puissance de guérison. La puissance de la vie, de la semence, de la parole qui concerne la guérison. Si vous prêchez que Paul a laissé Trophime malade à Mié, vous mettez des semences de doute. Même Paul, alors il a eu le problème, il n'a pas pu guérir Trophime, alors mince, zut, flûte. Donc bon, ça peut arriver, puis voilà. Mais si vous prenez des textes, c'est le boulot du serviteur de Dieu, de la servante de Dieu, de prendre des textes qui affirme clairement la vérité, c'est que Jésus est mort en portant nos maladies. Tu le bouffes, tu la prends cette graine, tu t'en nourris, tu fais tout ce qu'il faut pour que ça rentre, tu le prends, tu le prends, tu le prends, tu le prends, tu t'en satures, tu t'en gaves, comme disait l'autre. Michel, tu nous gaves. Oui, je vous gave parfaitement, mais de bonnes paroles de Dieu, afin que vous receviez ce dont vous avez besoin. Ça, il n'avait pas compris. C'est au sommet que vous devez vous rendre. Le sommet, c'est Jésus. Donc, les prédicateurs doivent faire ça. Et vous, qui êtes malade, vous devez faire ça, vous aussi. Vous n'avez pas besoin des prédicateurs pour être guéri. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un prédicateur qui vous impose les mains pour être guéri. Vous pouvez vous imposer les mains tout seul, dans votre coin, et être guéri. Moi, je me rappelle, la première jambe que j'ai rallongée au nom de Jésus, c'était la mienne. J'avais eu un pasteur qui faisait ça, à Paris. Je me suis dit, c'est génial, ça. À savoir, peut-être des fois, j'ai peut-être moi qui ai souvent mal au dos, c'est peut-être ça. Et j'étais dans le métro. Et je me suis assis bien au fond du siège. C'était sur le quai du métro. Et j'ai mis mes deux jambes, j'ai vu en effet que j'avais une jambe qui était plus courte. J'ai fait comme le prédicateur, j'ai commandé à ma jambe de se rallonger au nom de Jésus. Et j'ai vu ma jambe se rallonger, j'ai su que cette fois je pouvais le faire, puisque je pouvais le faire sur moi-même. Et c'est comme ça que ça a commencé, cette histoire de rallonger les jambes. Mais des milliers en a rallongé au nom de Jésus, à tel point qu'il y en a qui rigolent maintenant, ils se fichent de moi. Bon, ben qui continue, moi n'empêche, ça soulage les gens. La Bible nous dit que les boiteux marchaient. Hein, les boiteux, c'est ceux qui ont une jambe plus courte que l'autre, non? Que je sache. Bon, alors voilà. Alors, il faut faire l'acte de foi, faire l'acte. C'est au sommet que vous devez vous rendre. Le sommet, c'est Jésus. Le prédicateur qui a des miracles dans son ministère, c'est tout simplement parce qu'il a compris ces choses. Il les a compris plus ou moins consciemment, mais s'il a des miracles, c'est à cause de ça. C'est parce qu'il a compris les lois de la nature de Dieu. Alors prenez courage, vous les malades qui écoutez ce soir, prenez courage, vous les prédicateurs qui aimez les malades et qui désirez les voir guéris pour la gloire de Dieu et pour leur bien. Oui, parce que j'ai oublié de dire une chose aussi à beaucoup de prédicateurs, ils prient mais ils n'aiment pas les malades. Ils n'aiment pas les malades, alors qu'est-ce que vous voulez qu'il leur arrive? C'est d'abord l'amour, c'est l'amour la plus grande chose. Si vous n'aimez pas les malades, ça ne sert à rien de prier et de faire ce cirque, hein. Arrêtez, demandez à quelqu'un qui aime les malades de prier pour eux, mais ne faites pas ce cirque, s'il vous plaît, soyez sincères. Il faut d'abord aimer les malades pour pouvoir être efficace, hein. C'est la moindre des choses. Alors, vous les prédicateurs qui aimez les malades, qui désirez les voir guéris, vous devez les désirer les voir guéris pour la gloire de Dieu et pour leur bien à eux, pas pour pouvoir ensuite raconter partout que vous avez des miracles, etc. Bien sûr qu'on raconte partout qu'on a vu des miracles, mais c'est pour rendre gloire à Dieu, c'est pas pour attirer l'attention sur nous. Hein? C'est vrai, c'est pour témoigner. Je vous le dis, aucune maladie, aucun état psychique, aussi grave soit-il, rien n'est nécessairement incurable ou irrémédiable. Mais il faut vous projeter au sommet. Vous, les pasteurs, pour faire votre boulot correctement, les prédicateurs, et vous, les malades, pour obtenir votre guérison. Vous devez vous projeter au sommet, vers Jésus. Ayez la foi en lui. Vous m'avez compris?
Oui.
Alors, passez à l'exercice. Reste à exercer ce que je vous ai dit. Faites tous vos efforts pour garder vos pensées captives en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, qui est notre divin guérisseur. Amen. J'en rends témoignage. Je suis un témoignage vivant de cela. Et je peux dire vraiment, Jésus m'a guéri de plusieurs choses dans ma vie, de plusieurs choses. Le premier miracle que j'ai vécu, c'était un épanchement de sang qui tournait au... Comment on appelle ça? Au... À la gangrène, voilà, j'ai même oublié le mot. Le mot savant, la gangrène. Et c'était à Metz, sous le chapiteau des Gitans, il y avait le pasteur Vikram Seth qui est parti dans la gloire lui aussi, qui priait. Et là, mon pied qui devenait noir, tout à coup, j'ai senti une douleur comme si on me jetait un caillou dessus. J'ai ôté ma botte de soutien, j'avais une botte de soutien. Et j'ai enlevé la chaussette et j'ai vu que mon pied était blanc. Parce que nous, les blancs, on a des pieds blancs. Hein? Les noirs, ils ont des pieds noirs. Mais moi, mon pied, c'était pas normal qu'il soit noir. Hein? Et là, il était blanc, guéri. Ça, c'est le premier miracle que j'ai vécu. C'était avec Vikram Seth. Il n'avait même pas prié en anglais, parce que c'était sa langue, ni en français. Il avait prié en langue. Je me rappelle toujours. Eh bien, mes frères et sœurs, quand vous vivez une chose comme ça. Non, mais c'est merveilleux. Dieu est bon, Dieu est grand. Il fait les miracles quand il veut, comme il veut, à sa façon. Et il peut très bien passer par un chirurgien. Il peut très bien passer. Ayez simplement foi. Amen.
Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de m'avoir donné la force de prêcher ce message et d'aider mes frères et sœurs qui écoutent et de les aider à bien saisir et de passer à l'exercice maintenant. Merci mon Dieu. Amen.
Amen.
À bientôt.